Radio Barque, donc notre troisième partie prévoit aujourd'hui notre invité Nicolas Sainte-Cluc, dont je disais tout à l'heure qu'il a un certain nombre de mandats électifs. D'abord, on va commencer par la ville et on y reviendra aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes Nicolas Sainte-Cluc, conseiller municipal d'opposition. Vous êtes d'ailleurs souvent porte-parole de l'opposition, donc on vous entend pas mal lors, par exemple, des conseils municipaux. Vous êtes conseiller communautaire également, donc ce qui a été dit précédemment vous concerne et vous intéresse probablement. Et puis vous êtes, et on va commencer par là peut-être parce que ça sera une première question, vous êtes conseiller départemental. À propos de département, cette rocade Est qui a fait parler, couler beaucoup d'encre depuis non pas des années mais des décennies, il semblerait quand même qu'elle approche du dénouement. Où en est-on? Il était prévu qu'elle soit inaugurée incessamment, monsieur Sainte-Cluc.
Oui, en principe, les travaux devraient être terminés en avril ou juin 2019. Voilà.
Ouais, mais donc, on en est encore assez loin.
On est encore assez loin, mais on, par exemple, par rapport aux inondations, aux terribles inondations dont on a fait l'objet, on s'est aperçu que le pluvial fonctionnait parfaitement. Donc on aurait pu craindre, hein, avec avec les précipitations qui sont tombées, qu'il y ait eu des difficultés. Et finalement, non, ça fonctionne très très bien. Donc du coup, les travaux vont continuer. Et elle devrait être terminée, je vous dis, avril 2019.
Voilà. Pour le moment, elle a sa configuration générale au niveau du terrassement, oui. Donc, et des écoulements. Il restera, j'imagine, les empierrements, le goudronnage.
C'est ça, le goudronnage. Tout à fait.
Et la finition. Bon, donc vous nous confirmez bien que Narbonne, au plus tard, dans une petite année, aura bien enfin sa rocade.
Aura enfin sa rocade, tout à fait.
Voilà. Alors vous
êtes. Ça sera plus une légende.
Donc j'espère que c'est pour beaucoup une bonne nouvelle. Vous êtes donc également conseiller d'abord municipal, puisque je dis d'abord parce que c'est par là que ça commence au niveau des élections. Et vous n'aviez, on vous a reçu plusieurs fois, monsieur Sainte-Cluc, vous n'aviez jamais caché que la mairie de Narbonne vous intéresse. Hein, au moins, votre franchise est à noter. Vous n'avez jamais tourné autour du pot à ce niveau-là. Et cette approche, en quelque sorte, a avancé d'un pas, si je puis dire, récemment, dans la mesure où l'association J'aime Narbonne a confirmé que vous serez le candidat qui représentera cette association, qui est... Alors, on va y revenir dessus, c'est controversé, certains disent c'est une annexe du Parti Socialiste, vous dites que non, enfin bon, vous nous donnerez votre point de vue, mais en tout cas, vous êtes aujourd'hui, sinon pour le moment, le seul candidat opposé à monsieur Mouly pour la prochaine municipale. En tout cas, vous êtes le seul déclaré clairement à ce jour.
Oui, alors je vous rappelle quand même qu'il y a eu une élection, des candidatures aussi. Hein. Tout élu pouvait participer à cet appel à candidature.
Dans l'association.
Dans l'association J'aime Narbonne. Alors, je voudrais aussi rappeler les choses. Hein. L'association J'aime Narbonne aujourd'hui, c'est 150 personnes. Qui sont adhérentes. Et sur les 150, il y a à peu près, on a fait le calcul, 16% d'encartés. Voilà, 16%.
Donc c'est vrai que ce sont parfois les plus voyants et les plus actifs. C'est
oui,
peut-être pour ça.
Mais bien sûr, notamment sur les photos. Vous avez vu sur la photo qui a été faite une fois que pas mal de gens sont partis d'ailleurs. Et il y avait devant surtout les élus et les personnes identifiées comme effectivement faisant partie du Parti Socialiste. Après, il y a beaucoup de sympathisants. Il y a beaucoup de sympathisants ou d'anciens sympathisants du Parti Socialiste, bien entendu, ou d'autres partis communistes ou tout simplement qui n'ont jamais adhéré à un parti. Et donc c'est la plus grande majorité aujourd'hui.
Mais
donc,
c'est quand même une image de gauche.
C'est une image de gauche. Il y a quelques personnes aussi qui ne sont pas forcément classées à gauche. Mais effectivement, c'est une image de gauche, oui. Vous avez raison. C'est pour ça que j'ai indiqué que le travail aujourd'hui, à partir du moment où vous voulez qu'il y ait un candidat qui est tout simplement un leader, hein, c'était la volonté de l'association J'aime Narbonne. Moi, mon travail aujourd'hui consiste à faire une liste, à aller voir d'autres personnes, à aller voir aussi la société civile, pour tout simplement faire un projet qui soit cohérent et surtout qui ait pour objectif de mettre un terme à la municipalité actuelle, à Monsieur Mouly, qui, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le partager, fait que cette ville aujourd'hui a un dynamisme en déclin, notamment quand on voit Béziers ou Carcassonne, on s'aperçoit que nous, on est en train de reculer.
Oui, et d'ailleurs, vous êtes opposant au maire, je le disais tout à l'heure, depuis le début du mandat, ça n'est pas nouveau. Récemment, alors, vous ne perdez pas une occasion, évidemment, de répondre par presse ou par médias interposés au maire de Narbonne actuel ou de le critiquer. Ça a été le cas récemment à propos de la fameuse zone commerciale du domaine de Lacoste, là, qui est en train de se mettre en place, avec un problème de voirie.
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a, des habitants qui, effectivement, se sont offusqués de n'avoir pas été mis au courant au préalable de ce que de leur voie allait servir pour cette zone commerciale. Et le maire a indiqué que, parce que finalement, c'était pas sa faute, c'était la faute des services qui n'avaient pas été les voir au préalable, donc la concertation, le manque de concertation venait de la faute de ces services municipaux, c'est-à-dire des employés. Donc j'ai effectivement trouvé ça assez scandaleux. Je crois que c'est au maire, hein, de donner un cap, c'est à lui de mettre en place une concertation. C'est quand même pas un petit projet, c'est lui qui l'a décidé, hein, il a été voté tout simplement au conseil municipal. Nous sommes abstenus. Et à partir de là, c'était à lui, effectivement, d'aller voir la population et de leur indiquer ce qu'il comptait faire de manière claire et précise. Et non pas rejeter la faute sur les services. Les services, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et surtout en cette période où je pense que les services travaillent pour nos concitoyens. Et il est quand même assez inélégant, voilà, d'accuser ces services. Je crois que quand on est maire, eh bien... On commet des erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs. On le reconnaît. Comme on le dit, il faut avouer à demi pardonner.
Une petite remarque, Michel, ou une question?
Une remarque générale, quoi. C'est un projet qui... Je regarde un petit peu, qui remonte à 2011. Tu vas comprendre pourquoi je fais cette référence à 2011. Parce qu'en 2011, le projet était de faire 4000 et quelques mètres carrés de surface commerciale. Aujourd'hui, il n'y en a que 2500. Alors, il faut que nos auditeurs comprennent qu'il n'y a que 2500 pour une raison très simple. C'est que 2500, c'est un seuil. Au-delà de ce seuil 2500, l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme est nécessaire. Et là, Jean-Claude, s'il y avait eu 2600 ou 2300, je peux te dire qu'il y aurait eu une décision négative. Donc on a rabattu le projet à 2500.
Oui, voilà,
donc j'attire l'attention des élus, de manière générale, des auditeurs, sur le fait que l'on risque de voir apparaître dans les années qui viennent, pour justement éviter ce genre de contestation.
Des petites installations
commerciales à périphérie des villes qui sont autant dangereuses, problématiques du point de vue du centre-ville que les grands.
Additionner, oui. Tout à fait. Alors,
très bonne remarque. Ouais.
Nicolas Saint-Cluc, un autre domaine sur lequel vous vous opposez souvent au maire de Narbonne, Didier Mouly, actuellement, c'est la on l'appelle la salle multimodale ou la grande salle, dont les travaux d'ailleurs sont en train de commencer sur l'emprise du stade actuel.
Oui, ils sont plus qu'en train de commencer. Apparemment, on en est à peu près à plus de 2 millions d'euros de travaux. Donc effectivement, M. Mouly, contrairement à ce qu'il avait indiqué devant le tribunal, hein, en référé, puisque vous savez, nous avions été déboutés du référé, donc devant le tribunal administratif, il fallait le critère de l'urgence, et le tribunal avait indiqué qu'il n'y avait pas urgence dans ce dossier, dans la mesure où il était à même de juger cette affaire au fond, c'est-à-dire sur la problématique, effectivement, de savoir si ce marché est valable ou pas, la manière dont il a été conçu, à partir du mois de septembre. Et que, d'ici là, les travaux n'auraient pas débuté. La problématique, c'est que le tribunal, dans sa grande sagesse, a indiqué pendant l'été que, tenant son encombrement, il ne pourrait juger cette affaire qu'au premier semestre 2019. Notre avocat, l'avocat en tout cas de M. Ortiz, a rappelé au magistrat qu'il n'avait pas dit la même chose, en tout cas quand il était en référé, et que donc il fallait peut-être être un peu plus rapide. Alors on nous a indiqué que ça devrait être jugé au mois de novembre, pour l'instant on n'a pas encore de date, mais c'est vrai que malheureusement les travaux ont commencé, et ça peut avoir une influence sur la décision du dit tribunal, puisque on dépense quand même de l'argent public, 2 millions d'euros ce n'est pas rien, et je ne sais pas non plus si demain nous obtenons gain de cause, est-ce que il n'y aura pas aussi des pénalités à payer aux entreprises, puisque tous les marchés, apparemment, tout a été signé, on est sur l'exécution, donc ça pose effectivement de grosses difficultés. En sachant que sur la délégation aussi de services publics, moi ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul délégataire, donc c'est-à-dire une seule personne, une entité, qui a répondu à la demande du maire de prendre ce bâtiment en gestion, Q, qu'une seule, que les sommes qui ont été demandées étaient très 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 importantes, c'est-à-dire une subvention d'équilibre d'au moins 800 000 euros. Je sais que ils font tout pour faire baisser cette somme pour qu'elle soit au moins équivalente à celle du Grand Narbonne pour le théâtre, c'est-à-dire à 600 000 euros, pour, mais en sachant qu'ils veulent aussi acheter des matchs, donc ça veut dire on va aussi acheter des prestations, donc ça veut dire qu'en fait on sera sur le million d'euros, le fameux million d'euros que j'avais annoncé, entre 1 et 2 millions d'euros, pour que cette salle puisse fonctionner chaque année à perte. Donc, c'est-à-dire que chaque année, il faudra que la mairie de Narbonne investisse 1 million d'euros sur le fonctionnement. En sachant que, vous savez que l'État, la ville de Narbonne a aussi signé la convention, on ne doit pas augmenter son fonctionnement de plus de 1,2%. Rien qu'avec la salle multimodale, c'est pas possible.
Alors, cette salle qui a été contestée par un certain nombre de personnes, Monsieur Mouly lui-même a beau jeu de rappeler qu'il a été élu sur dans son mandat sur ce projet-là.
Alors, sur ce projet, il y a un petit raccourci. Le projet, au départ, c'était, je crois, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros. Après, on est passé à 23. Au début, c'était aussi une salle qui était surtout basée sur le sport, avec un club qui était...
Le volley,
qui aurait été résident. Résident, ça veut dire qu'il s'entraîne dans cette salle. Et on est passé à un autre projet complètement différent, où il a aussi rajouté, finalement, pour que ce soit un lieu de conférence. Et puis, chose aussi extraordinaire, là, on revient aussi au problème des seuils. On est à 4990 places à peu près. On est en dessous du seuil de 5000.
Pourquoi encore un seuil.
Parce qu'effectivement, au-dessus de 5000, eh bien, il y a une enquête publique préalable et d'impact. Et du coup, on échappe aussi à ça. Vous voyez, les choses sont quand même assez perverses. Et puis, il y a un gros souci, c'est que cet équipement à cet endroit-là, avec le problème de parking, d'accès, avec le musée de la Romanité qui arrive, où il va falloir prévoir à peu près 13 millions d'euros d'investissement pour ce musée de la Romanité, qui peut effectivement apporter un plus important pour la ville, mais à condition qu'on le prépare à l'avance, pour faire venir aussi les personnes jusqu'au centre-ville. C'est-à-dire, on va avoir des touristes, effectivement, qui vont aller dans ce musée, mais il faut les faire venir, les faire rester dans le centre-ville. Et si on met pas ça en application d'ici l'inauguration de ce musée, on va avoir de grandes difficultés. Et donc je pense que malheureusement, moi, cette salle multimodale va finalement coûter tellement cher et tellement de moyens à mettre sur cette salle que finalement on ne pourra pas faire le reste, et le reste c'est le plus important.
Oui. Michel, une remarque.
Oui, Nicolas Saint-Écluc, est-ce que vous ne pensez pas aussi que ce genre de constat est tout simplement la marque d'une asymétrie politique entre la ville et le Grand Narbonne, car on aurait pu imaginer que si les deux entités territoriales avaient eu un minimum d'intelligence et de coopération, on pouvait régler le problème de manière assez simple. On a un parc des Expos qui est obsolète, en fait, et qui doit être complètement revu, sinon, c'est mon point de vue, purement et simplement détruit. Et on aurait pu y concevoir qu'à la place de ce parc, on réalise une salle qui croise effectivement les besoins des deux collectivités exprimées à travers leurs projets.
Voilà. Seulement, on n'en est pas là, justement. Oui, on est dans chacun.
Je pense qu'effectivement, on aurait pu le faire comme ça. Le problème, c'est que pour négocier, il faut être deux, et il faut que l'un des deux fasse le premier pas et le fasse de manière claire, précise, sans arrière-pensée. Et dans ce dossier, enfin, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas eu ce premier pas clair et précis. Il y a eu un courrier, me semble-t-il, du maire de Narbonne, un peu tardif à Jacques Bascou, mais une fois que le marché de la salle multimodale avait été lancé. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faire cette salle, en sachant qu'il y a le parc des expositions à côté, où il y a aussi un projet pour faire en sorte que ce soit un lieu de conférence adapté justement à notre positionnement géographique, c'est vrai que ce n'est pas faire une bonne politique, une bonne gestion en tout cas de nos finances.
Oui, le risque, c'est d'avoir une sorte de pléthore, enfin
trop d'équipement. Et puis il faut savoir quand même que pour une ville comme Narbonne, 5000 places pour remplir donc des matchs de volley ou pour des spectacles, c'est quand même une très très problématique. On va avoir beaucoup de mal à la remplir. D'ailleurs, lorsque le maire a été interrogé pour sa rentrée politique par l'Indépendant, il me semble que la question lui a été posée, hein, comment allez-vous remplir cette salle ? Ce n'est pas mon problème, a-t-il indiqué. Ben, nous, c'est notre problème, hein, parce que si effectivement on ne remplit pas cette salle un certain nombre de jours par an, Mais malheureusement, ça va nous coûter très très cher.
Voilà. Mais il reste que le prochain maire de Narbonne, quel qu'il soit, aura peut-être à gérer cette salle.
Tout à fait. Et il devra le prendre en compte dans son programme.
Alors revenons justement sur cette prospective, sur cet avenir. Donc voilà, vous attaquez le chantier, si je puis dire, Nicolas Sainte-Cluc. Bon, évidemment, dès l'instant où vous êtes candidat, ça a suscité un certain nombre, peut-être de convoitises, peut-être de jalousies. Certains, alors on parlait tout à l'heure de Monsieur Perea, selon la presse, il vous reproche de ne pas penser collectif, donc sous-entendu de penser personnel. Que répondez-vous à ça?
Écoutez, moi, dans ma façon de travailler jusqu'à présent, que ce soit par exemple pour les conseils municipaux ou au niveau de ma délégation, j'ai toujours travaillé collectif. En plus de par ma profession, je travaille aussi aussi collectif. Et en tant que conseiller municipal, lorsque j'étais aussi adjoint à la ville de Narbonne, je travaillais collectivement. Moi, je considère qu'on doit travailler collectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté un peu de saper ma candidature, de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Moi, j'ai pas de je suis quelqu'un qui écoute, hein, qui travaille après avoir, qui prend des décisions, mais après avoir fait le tour. Hein, il faut beaucoup d'écoute, hein, parce que je crois que pour avoir une bonne gouvernance, il faut une bonne gouvernance doit être le reflet de la volonté de tous les acteurs. Et donc il faut surtout écouter, ensuite voir les problèmes comment ils se posent et prendre une décision. Voilà. Il faut aussi être ferme, prendre des décisions. Mais je crois que cette volonté là de Alain Perea, effectivement, de dire je travaille pas collectif, etc. Bon, c'est une volonté de saper ma candidature
un train peut en cacher un autre.
Oui, un train peut en cacher un autre. Alors peut-être qu'il y a des arrière-pensées, mais voilà. Bon, écoutez, je pense que les choses vont se calmer. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut continuer à faire en sorte que Mouly puisse, avec son équipe, diriger encore la ville pendant 6 ans, avec les conséquences que cela peut avoir alors qu'on a des enjeux majeurs qui sont devant nous? Ou est-ce qu'on veut jouer collectif, mettre un peu nos égos de côté pour faire un projet commun et qui dynamise ce territoire?
Sous-entendu, vous pourriez vous retrouver dans une même équipe avec Monsieur Perea et d'autres, bien entendu.
Alors Monsieur Perea lui-même, je n'en sais rien, ça prend pas, en tout cas,
ça n'apprend pas le chemin.
Ça n'apprend pas le chemin, mais qu'il y ait des gens qui étaient chez lui ou qui sont un peu perdus et qui ont envie, par contre, personnellement, par leurs compétences, et bien de participer à un projet collectif. Pourquoi pas? Moi, la porte reste ouverte. Voilà. Après. Il faut aussi qu'on définisse quelles sont nos valeurs communes et le projet. C'est-à-dire qu'en fonction du projet aussi, on verra qui adhère.
Oui, voilà. La recherche d'une cohérence et cohésion dans une équipe, cela va de soi.
C'est très important, oui. Vous le savez.
Parmi justement, alors sur la méthode, vous avez déjà évoqué certaines pistes, Monsieur Sainte-Cluc. D'ailleurs, c'est peut-être, vous avez été vous-même déjà au pouvoir avec Jacques Bascou dans la précédente mandature municipale. Hein. C'est peut-être, comme dirait Monsieur Hollande, les leçons du pouvoir.
Les leçons du pouvoir, bien sûr. Vous savez, quand vous commencez, moi j'ai commencé la politique finalement. Enfin, j'ai été élu, j'avais 36 ans, donc il y a 10 ans aujourd'hui. Et moi, je suis un idéaliste un peu. Hein, j'ai un côté un peu idéaliste. C'est-à-dire que je pense que pour faire de la politique, il faut être un peu idéaliste. Il faut avoir des idées nouvelles. Il faut avoir envie de changer les choses dans le bon sens. Et surtout avoir le sens de l'intérêt général. Voilà, ça c'est très important. Et c'est vrai que avec l'expérience que j'ai acquise, je sais aussi qu'aujourd'hui, pour arriver à faire certaines choses, il faut pas forcément dire voilà c'est comme ça que ça doit se réaliser. Voilà, il faut vraiment voir tous les acteurs, discuter, convaincre et ensuite donner un cap. Et à partir de là, on arrive à avancer.
Parce que vous dites idéaliste, Monsieur Sainte-Cluc, mais dans une interview à notre confrère l'Indépendant, vous avez affirmé, je cite, il faut arrêter de faire rêver. Or, jusque-là, tous les politiques, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, faire rêver.
Tout à fait. Quand je dis arrêter de faire rêver, par exemple, c'est faire croire qu'en un mandat, on peut tout changer. Il faut faire un projet sur plusieurs mandats. c'est pas forcément la même personne qui va le porter. Mais aujourd'hui, vu les enjeux, vu le temps aussi, vous avez le temps administratif, hein, moi je le vois aussi en tant que conseiller départemental, quand vous voulez, dans les énergies renouvelables, quand vous voulez mettre en place un certain nombre de choses, comme par exemple des éoliennes ou des fermes photovoltaïques, il faut plusieurs années. Et c'est pareil pour une ville. Si vous voulez changer une ville au niveau de l'urbanisme, de l'accessibilité, etc., il faut le planifier sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, et puis il faut faire en fonction de ses moyens. Et les moyens, ils seront contraints. Si par exemple la salle multimodale se fait, eh bien on aura moins de moyens. Si la salle multimodale ne se fait pas, on aura plus de moyens. Et on pourra donc proposer d'autres choses. Mais tout ça, il faut rester quand même logique. Bien sûr qu'il faut donner une direction, montrer ce que l'on veut faire pour la ville, mais il ne faut pas non plus faire des choses qui sont irréalisables. Parce que ça, aujourd'hui, c'est plus possible.
Ça veut dire qu'il faut savoir aussi faire machine arrière à l'occasion ?
Il faut aussi savoir faire machine arrière, bien entendu.
Bien, et bien c'est peut-être là-dessus que nous conclurons. Merci Nicolas Sainte-Cluc.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, et étant donné que vous êtes maintenant, alors j'ai envie de dire en marche, si c'est, l'expression n'est pas la bonne, mais que vous êtes véritablement parti sur une procédure et sur une candidature, j'imagine.
Je suis en action, en marche. C'est vrai que c'est pas le terme que j'emploie aujourd'hui.
Voilà, ben je vous laisse propriétaire de votre formule, Monsieur Sainte-Cluc. Prochain invité de ce Radio Barc, ça sera Édouard Rocher, alors un autre conseiller communautaire, celui-là, mais qui est maire de la commune de Coursan et qui est également politiquement radical. Alors j'allais dire radical de gauche, maintenant on dit radical. Voilà un certain nombre de pistes que nous explorerons la semaine prochaine. Aux auditeurs, merci de nous avoir suivis et donc à la semaine prochaine.